Donc je reviens à mon introduction, donc je rappelle mon titre. Il n'y a de pratique créatrice qu'inspirée. C'est une citation extraite de la page 305 dans l'inventaire des a priori. Le sous-titre, le sentiment dans l'inventaire des a priori de Michel Dufresne. Donc mon introduction. La perspective de lecture de la phénoménologie de l'art, qui fut la mienne jusqu'alors, consistait à mettre au jour, au sein de celle-ci, la présence d'une forme condamnable de téléologie, sinon de théologie, puisque déportant Michel Dufresne en dehors de la stricte philosophie. Cette téléologie n'est pas absente de l'inventaire des a priori, ouvrage qui nous retiendra principalement ici. En effet, dès la page 14, Dufresne se demande s'il ne faut pas admettre que la nature, je cite, « nature l'homme pour accéder à l'apparaître et devenir monde, en sorte que c'est pour elle que l'homme est fin en soi ». Fin de la citation. En d'autres termes, l'homme serait cet instrument évanouissant qu'une nature divinisée se donne afin de réaliser son télos, à savoir monde, c'est-à-dire passer du côté de la manifestation et ainsi accéder à une forme supérieure d'elle-même. Le présent travail s'inaugure d'une approche renouvelée de l'œuvre de Michel Dufresne. Partant de l'hypothèse de recherche que l'esthétique contemporaine, phénoménologique comme extra-phénoménologique, se signale par le refus de rabattre l'esthétique sur l'artistique et la philosophie de l'art, ou inversement, par la décision de penser l'esthétique comme une esthésique, c'est-à-dire comme une philosophie de l'aesthésis ou de la sensibilité, tout porte à croire que l'itinéraire intellectuel de Michel Dufresne, de phénoménologie de l'expérience esthétique à l'œil et l'oreille, en passant par l'inventaire des a priori, est exemplaire de cette démarche. En effet, à mesure que son élaboration philosophique se précise, Dufresne cesse de rabattre l'expérience esthétique sur la seule expérience esthétique des œuvres d'art. Le sentiment, c'est-à-dire l'expérience esthétique dans l'horizon dufrénien, permet par exemple de penser l'amour et l'expérience érotique. En ce sens, comme l'écrit Éric Jacquet ici présent, il est possible de lire l'ensemble de l'œuvre de Dufresne comme une philosophie du sentiment. Toutefois, Dufresne ne se contente pas de cheminer d'une artistique à une esthésique. Il va plus loin encore. Il progresse d'une philosophie de l'expérience esthétique des œuvres d'art vers une philosophie de l'expérience esthétique en général, puis d'une philosophie de l'expérience esthétique en général à une philosophie de l'a priori, c'est-à-dire à une philosophie de l'expérience en général, non exclusivement esthétique. C'est une nouvelle approche que nous allons étudier l'évolution que Michel Dufresne fait subir au concept de sentiment et ceux de phénoménologie de l'expérience esthétique, livre de 1953, à l'inventaire des a priori, recherche sur l'originaire, livre de 1981, évolution que nous comprenons donc comme caractéristique du passage d'une esthétique artistique à une esthétique esthésique. Nous pouvons formuler notre thèse de la façon suivante. Alors que dans phénoménologie de l'expérience esthétique, le sentiment est relation à des qualités affectives, dans l'inventaire des a priori, il devient relation non seulement à des qualités affectives, mais encore à des qualités axiologiques et à des qualités ontologiques. Par conséquent, à une extension, et même à une double extension, du concept de sentiment. Le sentiment s'étend une première fois en ce sens que les qualités affectives auxquelles il se rapporte ne se réduisent plus, comme dans phénoménologie de l'expérience esthétique, aux qualités affectives de ces objets esthétiques que sont les œuvres d'art. En effet, les objets non artistiques ont aussi des qualités affectives. Le sentiment s'étend une seconde fois en ce sens qu'il s'ouvre à d'autres qualités qu'affectives. Comme on va le voir, on joue dans cette seconde extension l'intégration au sein du sentiment, à la fois du désir, rapport aux valeurs, aux idées désirantes ou aux qualités axiologiques, et de l'imagination, rapport aux images ou aux qualités ontologiques. Cette extension affecte également la compréhension du concept de sentiment, qui se voit redéfini comme, formule de Dufresne, l'expérience d'un retour vers l'originaire. Le sentiment qui était sentiment de monde en 1953, c'est-à-dire relation aux artistes, devient en 1981 sentiment de la nature, c'est-à-dire rapport à l'être. L'esthétique de Dufresne culmine ainsi dans l'affirmation selon laquelle il est dans l'aesthésis, avec le sentiment, d'une connaissance de l'être. Il convient même de franchir un pas supplémentaire en soutenant que cette connaissance de l'être, doit être comprise au double sens du génitif. L'être est non seulement ce qui est connu, mais encore ce qui connaît. Avec le sentiment se joue la difficile articulation du monisme ontologique que Dufresne considère dans l'avant-propos de Jalon, texte de 1966, comme le moteur de toute l'histoire de la philosophie. En effet, le sentiment est l'indice du dualisme de l'homme et de la nature, puisqu'on ne peut le penser qu'à partir du partage entre a priori subjectif et a priori objectif. Et dans le même temps, le sentiment passe ce dualisme au profit d'un monisme naturaliste, s'il est vrai que l'a priori subjectif, c'est-à-dire le sentiment, n'est pas tant le fait de l'homme que le fait de la nature dans l'homme. C'est la nature qui se sent à travers l'homme. Pour démontrer notre thèse, nous commencerons par rappeler brièvement la thématique du sentiment au sein de phénoménologie de l'expérience esthétique, de façon à pouvoir mesurer par après ce qui la sépare de celle de l'avant-dernier livre. Suite à quoi, nous étudierons la conceptualisation du sentiment dans l'inventaire des a priori, qui se décline en sentir, en désir et en imagination. Donc, premier temps de mon propos, sur la même feuille, le sentiment dans phénoménologie de l'expérience esthétique. Phénoménologie de l'expérience esthétique, la thèse principale de doctorat de Michel Dufresne, relève de l'esthétique entendue comme philosophie de l'art. L'expérience esthétique en question est par conséquent celle de l'œuvre d'art, ou mieux, celle de l'objet esthétique, qui désigne l'œuvre d'art en tant que perçue, c'est-à-dire en tant qu'elle est actuellement appréhendée par la sensibilité d'un spectateur ou d'un auditeur. Cette sensibilité à l'œuvre d'art, cette expérience esthétique, est indistinctement thématisée comme perception esthétique et comme sentiment. Dans notre ouvrage « L'art et le monde » et dans la continuité d'une observation de Francesca Rusconi-Clerici, qui est une doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous avons montré que cette dualité notionnelle entre perception esthétique et sentiment faisait difficulté, puisque la perception esthétique et le sentiment étaient tantôt distingués, tantôt assimilés par Dufresne. Notre interprétation est qu'il s'agit finalement bien de la même expérience, les vocables de perception esthétique et de sentiment permettant de placer l'accent sur des aspects différents. En effet, d'une part, la thématisation de l'expérience esthétique en termes de perception esthétique rend possible, premièrement, la distinction entre l'expérience esthétique et l'expérience ordinaire, et permet, secondement, d'insister sur le fait qu'il y va dans l'expérience esthétique d'une relation à la signification. D'un côté, la perception esthétique ne se confond pas avec la perception ordinaire. La perception esthétique n'est que perception ou perception pure, elle est relation au sensible. La perception ordinaire, elle, est plus qu'une perception. Elle est une perception intellectualisée, elle est rapport à l'objet, c'est-à-dire au sensible, plus la signification théorique ou pratique que l'entendement lui donne. De l'autre côté, la perception esthétique est appréhension d'une signification. Dans la perspective dufresnienne, le sens s'avère irréductible au sens donné par l'entendement, au sens transcendant le sensible, quoique s'apposant sur lui. Il existe une autre couche de sens, un sens immanent au sensible, et recueilli plutôt que donné par le sujet. L'expérience esthétique est précisément perception esthétique en tant qu'elle est visée de ce sens immanent au sensible. Sur ce point, Dufresne hérite des phénoménologies de Husserl et de Merleau-Ponty, qui se représente la perception comme rapport constituant ou instituant à une unité de sens synthétisant les aspects sensibles. D'autre part, la thématisation de l'expérience esthétique en termes cette fois de sentiment permet de qualifier ce sens appréhendé comme sens expressif ou sens affectif. Ce sens expressif affectif se voit précisé à partir de trois notions interchangeables, celle de qualité affective, d'atmosphère et de monde. Percevoir esthétiquement ou sentir, c'est faire l'épreuve d'un monde, d'une totalité atmosphérique qui se dégage esthétique et qui colore tous les éléments de l'œuvre d'art d'une même teinte affective, ainsi de cette ambiance torturée qui émane des tableaux de Chaim Soutine. Dufresne fait correspondre cette qualité affective à ce qu'il nomme l'a priori existentiel de l'artiste. à savoir sa manière affective pour le réel. Comme tout homme, l'artiste vit les choses selon une certaine dominante affective, pathétique, tragique, comique, etc. Cette dominante affective affecte tous les éléments de la réalité de sa couleur propre. En les colorant de la sorte, elle les unifie ou les totalise, elle structure ainsi le réel en un monde singulier, le monde de l'artiste. La qualité affective de l'objet esthétique, c'est-à-dire l'atmosphère que l'œuvre d'art dégage, correspond à la dominante affective de l'artiste. Elle est cette dominante affective projetée dans l'œuvre d'art. L'atmosphère comique d'une pièce de Molière, c'est l'atmosphère comique de Molière. Sentir ce comique à l'occasion d'une représentation, c'est communier avec le moi profond de Molière. En somme, l'affectivité est mondifiante, et c'est pourquoi l'a priori existentiel est aussi, et dans le même temps, un a priori cosmologique. Comme l'écrit Dufresne, je cite, « L'unité du monde ne procède pas de l'unité du réel, mais de l'unité du regard qui se pose sur le réel. » Fin de la citation. En d'autres termes, c'est l'affectivité de l'artiste qui mondifie, qui donne à la réalité, l'artiste mais pas seulement, c'est l'affectivité qui mondifie, qui donne à la réalité l'unité d'un monde. On le comprend, dans Phénoménologie de l'expérience esthétique, le sentiment est donc davantage que la saisie d'un sens immanent au sensible, d'une qualité affective ou d'un monde, en ce qu'il permet de sentir la façon dont l'autre homme ressent le réel, le sentiment est l'appréhension du moi profond de l'artiste. C'est ce qui fait dire à Dufresne que l'art réalise l'intersubjectivité. Il faut noter pour conclure ce point que l'ouvrage de 1963, Le Poétique, mettra cette thèse au second plan. Dorénavant, ce qui intéressera Dufresne, donc du poétique jusqu'à l'inventaire des a priori, sera non plus le rapport du spectateur à l'artiste, mais la relation de l'homme à la nature. La qualité affective de l'objet esthétique ne renverra plus essentiellement à l'a priori existentiel de l'artiste, mais à l'un des visages de la nature, c'est-à-dire à l'une des manifestations d'un principe invisible, tout se passant bien comme si ce principe, la nature, se donnait les artistes, intermédiaires évanescents, pour accéder à une indéfinie visibilité. L'inventaire des a priori, comme on va le voir, fait fond sur cette relégation de l'artiste, sinon cet absentement, et sur cette redéfinition de la qualité affective comme un visage de la nature. Donc voilà, rappel des faits, si vous voulez, de phénoménologie de l'expérience esthétique. Maintenant, je vais m'attarder sur le sentiment dans l'intériorité. Donc c'est mon second temps. Le sentiment n'est plus le concept cardinal inventaire des a priori. C'est le concept d'a priori, à la marge dans phénoménologie de l'expérience esthétique, qui devient central. Toutefois, le sentiment demeure une notion topique, l'ouvrage se terminant sur un chapitre qui lui est consacré. Et ce, pour la raison suivante. Donc là, je vais rappeler les très grandes thèses de l'inventaire des a priori. Les a priori subjectifs et objectifs sont les conditions de possibilité de l'expérience. Donc ça, c'est la thèse inaugurale du livre. Par ailleurs, la dualité des a priori subjectifs et objectifs se résorbe dans l'unité de la nature, qui est leur fondement ultime. Or, le sentiment est précisément l'a priori subjectif fondamental qui rend possible une forme d'expérience de l'a priori objectif fondamental, lequel est un a priori objectif incoatif, un état premier de l'a priori, comme écrit Dufresne, en ce sens qu'il précède et fonde expérience, et donc a priori objectif correspond à la nature. Par conséquent, le sentiment est sentiment de la nature. Ainsi que l'affirme Dufresne, la nature est aussi un a priori dans la mesure où, bien qu'impensable, nous en avons le sentiment. Fin de citation. Se formule ici le cheminement que Dufresne a accompli depuis le premier livre. Alors que dans Phénoménologie de l'expérience esthétique, le sentiment est sentiment de mondes artistiques, dans l'inventaire des a priori, il est primordialement sentiment de la nature. Nous allons tenter de montrer dans ce second mouvement de notre développement que le geste du Dufresne, ne consiste pas à remplacer le sentiment de monde par le sentiment de la nature. Il ne s'agit pas d'une simple substitution. Il revient plutôt à comprendre le sentiment de monde, mais aussi le sentiment des idées désirantes et des images, sur le mode d'un sentiment de la nature. Le sentiment de monde n'est pas autre que le sentiment de la nature, il est un autre sentiment de la nature. En d'autres rigueur, Dufresne, dans l'inventaire des a priori, ressaisit le sentiment comme ordonné à un sens toujours immanent au sensible. Ce sens se décline triplement, cette déclinaison modélisant le sentiment. Le sentiment est premièrement monde ou qualité affective, le sentiment qui s'y ordonne est alors sentir. Le sens est deuxièmement idée désirante ou qualité axiologique, le sentiment qui s'y rapporte est cette fois désir ou inspiration. Le sens est troisièmement image ou qualité ontologique ou encore qualité de fond. Le sentiment qui s'y relie est en ce cas imagination. Dufresne articule clairement ces trois dimensions du sentiment dans les dernières pages du livre. Je cite, donc ces pages 314-315, voisine de ces qualités ontologiques, nous retrouvons ici les qualités affectives. Je saute un passage. Ces qualités affectives, elles sont proches aussi des qualités axiologiques. Fin de la citation. Donc, articulation par Dufresne, des qualités ontologiques aux qualités affectives et des qualités affectives aux qualités axiologiques. Nous allons examiner donc tour à tour le sentiment, entendu d'abord comme relation aux qualités affectives, puis comme relation aux qualités axiologiques, puis enfin comme relation aux qualités ontologiques. Ce sera les trois sous-moments de mon deuxième temps. Donc, premier sous-moment de mon second temps, les qualités affectives. Notre examen du sentiment, donc, dans l'inventaire des a priori, doit débuter par la thèse commune à phénoménologie de l'expérience esthétique et à l'inventaire des a priori, à savoir la proposition selon laquelle le sentiment est sentiment de monde ou relation à des qualités affectives. Le sentiment est d'abord thématisé dans l'inventaire des a priori comme un a priori subjectif qui rend l'homme apte à appréhender un a priori objectif déterminé. Cet a priori objectif déterminé renvoie à un sens primaire, à un sens immanent au sensible, immanent aux choses sensibles, sens que Dufresne nomme le « assentir » ou « l'affectif ». C'est pourquoi l'a priori subjectif qui lui correspond est le « sentir », sens premier du sentiment. L'affectif réfère aux qualités affectives, lesquelles réfèrent à leur tour au monde, par exemple au monde des artistes, comme le monde pathétique de ou le monde autrement pathétique de Tchaïkovski. Ces mondes étant alors, comme écrit Dufresne, je cite, « leur façon singulière de voir le monde ou de se sentir au monde ». Jusque-là, le lecteur de phénoménologie de l'expérience esthétique est en terrain familier. Toutefois, Dufresne opère un triple déplacement vis-à-vis des thèses de 1953. Le premier déplacement concerne la thématisation des catégories esthétiques en termes de pressentiment. Dans Phénoménologie de l'expérience esthétique, Dufresne soutenait que si nous sommes capables de connaître une qualité affective singulière, c'est parce que nous sommes toujours déjà équipés de catégories esthétiques qui sont comme des thèmes dont les qualités affectives seraient des variations. Dans l'inventaire des a priori, Dufresne pense ces catégories esthétiques à partir de la notion de pressentiment, de façon à affirmer que l'aptitude à saisir des qualités affectives singulières se fonde d'une part sur une connaissance préalable de ces qualités, d'autre part sur une connaissance générale de ces qualités à saisir. Comme écrit Dufresne, nous pénétrons d'emblée dans le pathétique de Beethoven parce que nous avons déjà quelques pressentiments du pathétique. Fin de la citation. En d'autres termes, nous ne pouvons sentir le pathétique singulier de Beethoven que parce que nous pressentons le pathétique en général, c'est-à-dire parce que nous en avons un pressavoir diffus. L'a priori subjectif qu'est le sentir, mais cela vaut finalement pour tout a priori subjectif, possède donc une structure duelle. L'a priori subjectif est capacité à appréhender un sens et pressavoir diffus de ce sens, ce pressavoir conditionnant cette capacité d'appréhension. Le deuxième déplacement de l'inventaire des a priori vis-à-vis de phénoménologie de l'expérience esthétique touche à la modélisation du sentir. Dans Phénoménologie de l'expérience esthétique, Dufresne mettait l'accent sur le changement que le sentiment venait opérer du côté de l'œuvre d'art, la faisant passer au statut éminent d'objet esthétique. Dans l'inventaire des a priori, Dufresne insiste dorénavant sur le changement que le senti, c'est-à-dire la qualité affective, occasionne du côté du sentant. Sentir une qualité affective, écrit-il, je cite, c'est en même temps lui répondre, être soi-même affecté. Non comprendre, mais participer, éprouver. Joyeux, c'est être joyeux. Saisir le beau, c'est être beau. L'a priori est une disposition à laisser retentir en soi telle qualité avec laquelle on a une fierté immédiate. Fin de la citation. Ainsi, s'il faut préalablement pressentir le pathétique en général pour sentir le pathétique singulier de Beethoven, sentir ce pathétique singulier signifie devenir pathétique à son tour. Le troisième et dernier déplacement, le plus significatif, porte sur le statut ontologique de la qualité. Dans l'inventaire des a priori, en effet, Dufresne désolidarise qualité affective et œuvre d'art, ce qui a pour effet de dissocier qualité affective et façon singulière de voir le monde de l'artiste. En 1953, et comme on l'a vu, Dufresne référait les qualités affectives aux objets esthétiques, les objets esthétiques aux œuvres d'art, un objet esthétique étant l'œuvre d'art en tant que perçu, et les œuvres d'art à l'expression de l'attitude existentielle de l'artiste. Cela de telle sorte que le rapport à une qualité affective revenait à une relation intime avec l'artiste. En fait, cette thèse évolue immédiatement après Phénoménologie de l'expérience esthétique. Lors de sa soutenance de thèse, Dufresne se voit reprocher par Étienne Sorieux de féoder secrètement la perception esthétique à l'art et d'avoir esquivé le problème du beau naturel. Pour parer à l'objection, Dufresne écrit en 1955 un article intitulé « L'expérience esthétique de la nature » et dans lequel il va élargir l'extension du concept d'objet esthétique, lequel renverra désormais aussi bien aux œuvres d'art qu'aux objets naturels. L'objet esthétique sera l'expression tantôt des artistes, s'il est une œuvre d'art, tantôt de la nature, s'il est un objet naturel. Dufresne ne s'en tient pas là. Il ne s'arrête pas à cet article qui déjà discrédite une partie des thèses de phénoménologie de l'expérience esthétique. En effet, après avoir doté la nature d'une puissance expressive, donc d'une forme de subjectivité, Dufresne va ramener toute subjectivité à la subjectivité de la nature dans le poétique en 1963, en sorte que les mondes exprimés par les œuvres d'art deviendront des expressions de la nature elle-même. Tout se passera dès lors comme si la nature se donnait l'homme, et en particulier les artistes et les poètes, pour pouvoir s'exprimer dans des œuvres d'art, pour pouvoir devenir monde et ainsi apparaître. Dans ce contexte, le sentiment se révèle être, davantage que l'acte de l'homme, l'acte de la nature en l'homme, laquelle vient actualiser par l'entremise de la sensibilité humaine ses apparitions comme monde. Dufresne formulera définitivement cette thèse dans le texte « Vers un éros cosmique » qui date de 1984, en affirmant que notre désir de voir se fonde dans un désir d'être vu de la nature. Il s'agit là, avec le sentiment, d'une première distinction de l'homme et d'un premier brouillage du dualisme de l'homme et de la nature. L'inventaire des a priori hérite de cette évolution théorique. Dufresne affirme que les mondes, de Rembrandt, de Poussin, aussi bien que le monde grandiose de la montagne ou le monde de tendresse d'un sourire, je cite, sont tous les expressions d'une même nature et que la nature se révèle à travers eux. Non seulement le monde me parle parce que je suis équipé de catégories esthétiques pour l'écouter, mais encore il me parle de la nature. Le monde n'est qu'un intermédiaire entre moi et la nature. Il est la langue de la nature, son verbe. Aussi Dufresne conclut-il que, je cite, le sentiment pressent quelque chose de la nature à travers le monde. Fin de la citation. Il faut entendre par là que la nature, bien qu'inaccessible comme telle, se laisse néanmoins immédiatement approcher, et ce dans notre expérience des mondes, lesquels sont ce que cette nature devient lorsqu'elle passe du côté de l'appréhendable par l'homme, c'est-à-dire du côté du sens. Plus encore, il faudrait entendre que c'est la nature qui s'atteint elle-même à travers les mondes, qu'elle fait indirectement advenir, de telle sorte que les paroles de la nature à l'homme sont un monologue naturel. Quoi qu'il en soit, à ce stade, le sentiment s'est précisé une première fois comme sentir, c'est-à-dire comme relation à des qualités affectives, et comme pressentiment, c'est-à-dire comme relation à la nature, ou plutôt de la nature à elle-même, par l'entremise des qualités affectives. J'en viens à mon deuxième sous-moment de mon second temps, les qualités axiologiques. Dufresne distingue, à côté des qualités affectives, des qualités dites axiologiques, aussi appelées des biens ou des valeurs désirables. L'utile, le juste, le beau, l'agréable, le bon, etc. Il s'agit là aussi de sens immanent au sensible, d'a priori objectifs qui sollicitent le sujet, mais non pas à s'émouvoir, mais à agir. Ce sont en ce sens des a priori pratiques plutôt que de l'affectivité. L'a priori subjectif qui leur correspond, l'aptitude à appréhender le désirable, Dufresne le nomme le désir. Rien d'étonnant dans cette thématisation, si ce n'est que Dufresne décrit ce désir comme une espèce du sentir, comme un mode de ce qu'il appelle à côté du sentiment sentir, il faut donc faire place au sentiment désir. Ou plutôt, le sentiment recèle-t-il en son sein une dualité, car une trialité, celle du sentir et du désir. Le rapprochement du désir avec le sentir, ou du sentir des valeurs avec le sentir des qualités affectives, ce sont des formules de Dufresne, peut trouver deux ordres d'explication. Il se justifie ce rapprochement, d'une part, par le fait qu'il y a du pressentiment dans le désir, comme il y a du pressentiment dans le sentir. De la même façon que pour sentir le monde pathétique singulier de Beethoven, il faut préalablement pressentir le pathétique en général, de même pour saisir la valeur d'une chose, son caractère désirable, il faut préalablement pressentir les valeurs en général. Telle ou telle chose ne peut m'apparaître belle, belle à sa façon, que parce que je possède par devers moi un pressavoir diffus de ce qui est général. Ainsi existe-t-il des catégories axiologiques, l'agréable, l'utile, le bon, comme il existe des catégories esthétiques. Le rapprochement du désir avec le sentir s'explique d'autre part en ce qu'il permet d'intégrer une dimension pratique ou active à l'intérieur du sentiment, lequel jusqu'alors était thématisé comme un a priori subjectif noétique, délivrant un savoir, savoir des mondes, savoir de la nature, plutôt que donnant lieu à un agir. Or, pour remédier à cette lacune, Dufresne, à la fin du livre, réserve une place de choix à certaines qualités axiologiques qu'il appelle des idées désirantes. Il donne des exemples des idées de liberté, de justice, d'éternité, de santé ou de bonheur. Ces idées sont désirantes, non pas en ce sens qu'elles désireraient, mais en tant qu'elles sont appréhendées comme désirables, et ce pour deux raisons. Les idées désirantes sont hautement désirables, premièrement parce que tout se passe comme si elles trouvaient leur origine, non pas dans les inclinations de l'homme, mais dans l'imaginaire de la nature. Dufresne écrit « Il semble que ce soit la nature qui nous enseigne ses idées. » Fin de citation. L'homme reconnaît dans les idées désirantes un désir plus éminent et plus ancien que le sien. C'est la raison pour laquelle Dufresne parle du rapport aux idées désirantes en termes d'inspiration. L'inspiration est un autre nom du sentiment, écrit-il. Le désir de justice de l'homme, son inspiration à agir pour davantage de justice, c'est l'aspiration de la nature à la justice. L'homme, déjà dépossédé de son sentir, se voit maintenant dépossédé de son éros. Le désir n'est pas le sien. Les idées désirantes sont hautement désirables, secondement, parce qu'elles sont les idées d'un monde à la fois autre ou absent et meilleur que le nôtre. Les idées désirantes sont donc utopiques, ou plutôt elles éveillent chez l'homme une pratique utopique, identiquement désirante, créatrice, inspirée ou subversive. Donc là, référence à l'intitulé de mon propos. C'est-à-dire une conduite visant, comme l'écrit Dufresne, la production d'œuvres ou d'événements qui transforment le réel, qui transforment au profit d'un idéal, notre réel étant par définition, dans l'horizon dufresnien, perverti, donc à subvertir. De ce point de vue, Dufresne se situe résolument du côté du progressisme plutôt que du conservatisme, du côté de l'appel au désordre plutôt qu'au maintien de l'ordre. La pratique utopique, qu'elle soit politique, esthétique, active, religieuse ou morale, est toujours une pratique dirigée contre l'ordre établi, cherchant à transgresser, je cite, les normes et les interdits que les institutions ont mis en place et qui assurent le maintien de l'ordre. Fin de la citation. On le comprend, Dufresne ressaisit le sentiment inspiration, c'est-à-dire l'incessante production subversive d'un monde autre, sur le même mode que la création artistique, c'est-à-dire l'infinie production de monde, à savoir finalement comme une manière pour la nature, par l'intermédiaire de l'homme, de devenir monde, de démultiplier ad libitum ses visages et ses apparitions. Le positionnement politique anarchiste de Dufresne se justifie ainsi d'une métaphysique qui thématise la nature comme enténébrée, nocturne ou cryptique, et dans une indéfinie, sinon désespérée, quête de manifestation ou de mondification. À l'issue de cette nouvelle étape du raisonnement, il apparaît que le sentiment est non sentir, mais encore désir, c'est-à-dire relation à des qualités axiologiques, et aussi à travers cette relation, assentiment, c'est-à-dire adhésion à l'imaginaire et aux aspirations de la nature. Troisième et ultime sous-moment de mon second temps, les qualités ontologiques. La nature se laisse immédiatement approcher à la faveur des qualités affectives et des qualités axiologiques, mais aussi par un ultime biais, celui des qualités ontologiques ou des qualités de fond, ou des a priori de l'imagination, ou encore des images. Ce sont des termes. Si une qualité affective nous met en lien avec ce que la nature devient, à savoir des mondes, et si une qualité axiologique nous relie à ce que la nature désire, à savoir un monde toujours autre. En revanche, une qualité ontologique nous reconduit à ce que la nature est, c'est-à-dire une puissance productrice. L'être est énergie, écrit Dufresne. Certes, comme le dit Dufresne, tout sentiment est en quelque sorte sentiment de la nature. Toutefois, le sentiment entendu comme relation aux qualités, en ce sens qu'il permet de voisiner au plus près avec la nature comme telle, est éminemment sentiment de la nature. Ainsi que l'écrit Dufresne, les a priori qui saisissent au mieux le réel sont ceux qui le pressentent comme surréel, les a priori de l'imagination. Ils saisissent ce qui, dans l'apparaître, atteste être du fond. Fin de la citation. Dufresne établit un inventaire de ces a priori objectifs de l'imagination ou de ses qualités ontologiques, l'élémentaire, la puissance, la profondeur, la pureté, l'obscurité, le caractère originel. Il s'agit là toujours d'un sens immanent au sensible et qui, parce qu'il est appréhendé non plus par le sentir ou par le désir, mais par l'imagination, est appelé image. Dufresne développe sa théorie de l'image à partir du poétique en 1963. Il soutient alors qu'appréhender une chose, non pas à travers une image, mais comme une image, revient à la saisir comme poétique, c'est-à-dire comme le produit d'un poiein, d'un faire-être, précisément le faire-être de la nature. Les images, grandes images, ou encore les sensibles gros d'imaginaire, présentent différents traits de ce faire-être qu'est la nature. Je cite Dufresne dans le poétique, « L'énergie de la vie peut se faire connaître par l'éclosion d'une fleur, la sombre profondeur du fond par la présence obstinée d'une racine de marronnier, l'imprévisibilité du devenir par l'événement le plus fugace. » Fin de la citation. Or, précisément parce que les images sont poétiques, elles sont éprouvées de manière privilégiée par les poètes qui en mesurent seuls le potentiel et les exploitent pour faire œuvre de poésie. Dans l'inventaire des a priori, l'imagination cesse d'être réservée aux poètes, elle se dispense, pour ainsi dire, à ceci près que la saisie des qualités de fond demeure une rareté plutôt qu'un fait du quotidien. Comme l'écrit Dufresne dans une formule dense, sentir, donc ici imaginer, c'est éprouver l'imaginaire du réel sur les hauts lieux que, dans les hauts moments, le sensible donne à sentir. L'imagination, qui donc s'active dans les hauts moments, est définie comme l'a priori subjectif apte à percevoir les fichiers du fond, capable par exemple d'éprouver la qualité ontologique de l'élémentaire à travers le roc, la racine, la terre, l'eau ou le feu. C'est la raison pour laquelle Kuhn la thématise comme une faculté profonde et fondamentale. Elle touche au fond, à la physis plutôt qu'à ce qui en émerge, c'est-à-dire les mondes. Mais Dufresne ne s'en tient pas là. Il ajoute que l'imagination est une faculté transcendantale. En ce sens que, je cite, « c'est la nature qui imagine en l'homme lorsque l'homme imagine ». Fin de la citation. Proposition trouvée déjà formulée dans les mêmes termes dans le poétique. De nouveau, le sentiment se révèle être le lieu d'une dépossession de l'homme et d'un brouillage du dualisme et de la nature. Si avec le sentiment sentir, c'est le sentiment qui se sent, c'est la nature, pardon, qui se sent à travers l'homme, si avec le sentiment désir, c'est la nature qui désire à travers l'homme, avec le sentiment imagination, c'est la nature qui imagine à travers l'homme. Le sentiment, qu'il soit sentir, désir ou imagination, possède finalement, dans l'inventaire des a priori, la même définition. Il est à chaque fois sentiment de la nature, ce qui signifie qu'il est deux choses complémentaires. Donc je rassemble un peu la situation. Le sentiment est d'abord sentiment de la nature. J'insiste sur sentiment. Il saisit la nature confusément plutôt qu'adéquatement. Il la pressent plutôt qu'il ne la pense. Dufresne ne cesse de répéter que la nature est impensable. Il a aussi cette importante formule. Le retour à la nature ne peut être un retour à, mais un retour vers. Dans la proximité, non au contact même de l'originaire. Le sentiment est retour vers la nature, davantage qu'un retour à la nature. Le sentiment est ensuite sentiment de la nature. Donc cette fois-ci, j'insiste sur le de la nature. C'est la nature elle-même qui s'éprouve à travers l'homme. C'est la nature qui revient à elle-même depuis l'homme. Précisément parce qu'elle doit faire un détour, en passer par l'homme pour faire l'expérience d'elle-même, cette expérience se voit rendue impure ou grevée au passage d'un coefficient de confusion. Elle n'est que sentiment ou pressentiment plutôt que pensée ou pensée de la pensée, de pur aristotélicien. Plus encore, cette nature qui est indivisible se voit appréhendée dans le sentiment sous des aspects diffractés, à partir d'a priori multiples et à première vue sans lien, les qualités affectives, axiologiques et ontologiques. Or, toutes ces qualités se dépassent au terme de l'analyse vers la même et unique réalité, et on comprend que le dualisme de l'a priori subjectif et de l'a priori objectif, au fondement de l'expérience humaine, lui-même se transcende au profit d'un monisme de la nature. Le pas franchi depuis 1953 sur la question du sentiment excède donc la seule transition d'une esthétique artistique vers une esthétique esthésique. De phénoménologie de l'expérience esthétique à l'inventaire des a priori, Dufresne est passé d'une phénoménologie face à face entre un homme sentant et une œuvre d'art sentie à une métaphysique de la nature s'auto-pressentant. J'en arrive à ma conclusion. En faisant du sentiment un sentiment de la nature plutôt que le sentiment de mondes artistiques, Dufresne ouvre la voie à une phénoménologie du sentiment ou à une esthésique capable de déceler la portée métaphysique des expériences esthétiques non artistiques. Il y va possiblement d'un retour vers l'originaire dans le sentiment amoureux, le sentiment de l'existence ou encore le sentiment mystique. Toutefois, cette ultime théorie dufresnienne du sentiment s'expose à au moins deux réserves. La première réserve est que Dufresne déporte le sentiment du côté de la nature, ce qui le conduit à verser dans une cosmothéologie contestable, ce dont nous avons abondamment parlé ailleurs. La seconde réserve, et je terminerai là-dessus, concerne la distinction entre retour vers l'originaire et retour à l'originaire. Cette dualité repose sur le fait que Dufresne pense toujours le sentiment comme rapport à un sens immanent au sensible, c'est-à-dire depuis le modèle de la perception, du vis-à-vis entre un sentant et un senti à distance respectueuse l'un de l'autre. Or, l'on pourrait tout à fait proposer un contre-modèle du sentiment qui ne serait plus visé à distance de la physis, dans des qualités ontologiques par exemple, mais participation à la physis, dans une proximité. C'est ce que nous avançons dans notre livre « L'art et le monde » lorsque nous parlons du sentiment comme ressentiment, c'est-à-dire comme coïncidence partielle avec la nature. Mais c'est aussi ce que Dufresne lui-même propose lorsqu'il parle du sentir. Appréhender une qualité affective, c'est, dit-il, être soi-même affecté. Non comprendre, mais participer, éprouver. Saisir le joyeux, c'est être joyeux. En suivant ce fil, ne pourrait-on pas dire que saisir la nature, c'est la devenir, et qu'en ce sens, revenir vers elle, c'est revenir à elle ? Voilà. Je vous remercie pour votre attention.